Libre Radio, le côté obscur de la radio. Retrouve les directs, les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org.
Alors, l'utilisation du numérique, miroir d'une société, c'est un article, un reportage qui est de ton fait. Sébastien, bienvenue à toi.
Merci.
Alors, tu es l'auteur de ce site internet dont l'adresse est la suivante, www.pensepublicaupluriel.wordpress.com, dont tu vas nous dire qu'est-ce qu'il aborde en général. Et plus spécifiquement, aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet-là, de cette notion-là, le numérique, le big data. Que fait-on de ces données? Est-ce qu'elles sont sécures? Est-ce qu'il faut s'en méfier ou est-ce qu'il faut les promouvoir? Tu étais toi-même récemment à un événement qui, si je ne me trompe pas, s'est déroulé à l'Impact Hub aux Grottes et qui parlait de ceci. Alors, voudrais-tu peut-être déjà commencer par te présenter un petit peu et qu'est-ce qui t'a mené à produire ce site internet?
Alors, je m'appelle Sébastien Chapfer, je suis plutôt militant du côté du numérique. J'avais monté une association Anticom qui promouvait l'utilisation éthique des technologies de communication et d'information. Et de fil en aiguille, je suis passé dans divers événements, diverses associations, et je me suis intéressé moi-même un peu à tout ce qui touchait au numérique et à l'aspect sociétal du numérique, parce qu'on dépasse l'aspect pratique et l'aspect utilisateur. Et puis ça amène des réflexions sociétales et éthiques assez intéressantes.
Et tu souhaitais partager ces réflexions par ce site internet sur lequel eh bien, tu t'exprimes de manière assez pléthorique quand même.
Ben, disons que c'est tout ce qui touche à la réflexion éthique et sociétale mérite d'être partagé, ou en tout cas on mérite d'être posé sur papier afin que chacun puisse après s'élever ou se poser ces questions-là. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas... On n'a pas toujours tendance à vouloir s'élever du débat et poser des questions qui englobent une société ou qui englobent un groupe de population.
Alors voilà, cette collecte de données, ce tout numérique, selon toi, est-ce un danger, est-ce un défi ou est-ce un atout pour l'avenir?
Ça dépend comment on se positionne, parce que l'utilisation, elle peut être très positive et elle peut être aussi très négative. Par exemple, on peut très bien décider de géolocaliser les bateaux qui aident les migrants, par exemple, tout ça pour les aider dans un soutien ou vérifier justement où est-ce qu'ils chopent le plus de... c'est pas le bon mot, mais ils aident le plus d'embarcations et ainsi voir quelles sont les routes pour justement aider ou alors à l'inverse, voir justement où sont les routes pour pouvoir les bloquer. Ça dépend qu'est-ce qu'on en fait. Après, il n'y a pas de positionnement direct. C'est-à-dire que du moment que... La loi ne reconnaît pas la valeur de ces données, ou ne reconnaît pas la géolocalisation ou l'identité numérique des individus, ben on ne peut pas se positionner. Parce que il n'y a aucun outil qui peut nous aider nous-mêmes. Donc, il faut avoir une discussion plus large et se dire, ok, qu'est-ce qu'on a le droit ou pas le faire? Est-ce qu'on reconnaît l'identité des individus ou pas à ce niveau-là? Est-ce que ça mérite justement de positionner une valeur intrinsèque comme le contrat social, avec un état de droit, et ainsi pouvoir après légiférer correctement. Parce que s'il n'y a pas de loi, ben les juges vont dire on ne peut pas légiférer, on ne peut rien faire.
Et alors ce débat-là, sur ces droits-là, sur ces nouveaux droits, peut-être dans une société numérique, une société digitalisée, comme tu l'as dit, selon toi, est-ce qu'elle a, cette discussion a-t-elle cours actuellement? Ou justement, selon toi, est-ce qu'on élude un peu cette question-là?
Alors, je pense que le monde académique se pose ces questions-là. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui essayent justement d'élaborer soit des systèmes ou même philosopher là-dessus. Et d'autres personnes sont plus dans l'application ou dans comment faire de l'argent, dans le côté pratique, dans on fait ça, on y va. Puisqu'il n'y a rien, on dit mais le monde va trop vite, donc on ne peut pas s'adapter. Mais ce n'est pas vrai.
Oui.
C'est-à-dire qu'on peut créer un cadre.
Alors justement, le titre de l'article, de ton dernier article, c'est le suivant, l'utilisation du numérique miroir d'une société. Donc ça en dit long sur ce que tu penses que le numérique représente. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est d'une certaine manière un diagnostic que l'on peut poser sur une société. On en est là, on voit comment ça fonctionne, on voit également comment ça dysfonctionne. Et à partir de là, eh bien, à nous de transformer les choses, à nous de les domestiquer d'une certaine manière.
Alors qui nous?
Ah qui nous, hein, effectivement.
Le peuple peut rien faire.
Ouais, ouais.
Parce que le peuple, il a aucun outil. Donc, à un moment, il doit y avoir une commission d'éthique internationale qui se positionne là-dessus et puis qui estime, avec l'accord de tous, que c'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. Si on prend le don d'organes, ça a été la même chose. Le don d'organes, on a dit, on n'en fait pas commerce. Parce que, c'est pas éthique, et puis, de deux, ça pourrait créer beaucoup de problèmes et autres. Enfin, après, il y a les discussions durer longtemps. Mmh. Mais c'est la même chose avec le. Alors, moi, j'aime bien le dire, parce que c'est un argument percutant qui reste, c'est le don de sperme. On n'en fait pas commerce. Ouais. C'est-à-dire, c'est le service qu'on va avoir de la banque de données. On dit, on choisissait parmi un tel profil. C'est ça que les gens payent, mais pas le don lui-même.
Est-ce que, penses-tu que. À l'aune et au devant du GAFAM, de ces transnationales, pourra-t-on lutter d'une certaine manière? Pourra-t-on arriver à imposer ce que tu appelles de tes voeux, d'une certaine manière, une instance internationale qui puisse réguler ou en tout cas qui puisse imposer une éthique à l'utilisation qui serait faite de ces données?
Alors la lutte, elle commence déjà depuis un moment. Si on prend sémantiquement la lutte, hein, elle a toujours eu lieu. Sur un internet libre, sur justement une utilisation éthique et responsable. Et d'un autre côté, ce n'est pas à la lutte, ce n'est pas à ceux qui luttent en fait de se positionner là-dessus, mais de motiver justement les gouvernements, motiver après d'autres associations d'élaborer même des initiatives. On en a une en Suisse qui va arriver en octobre, qui va commencer en octobre et qui justement a pour but de poser cette question-là.
Oui. Alors, une citation qui ponctue ton article, c'est la suivante. « Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique, psychique et numérique, et à la liberté de mouvement. » Et tu termines par ton article, par le texte suivant. « Il nous reste donc à mettre en place un comité d'éthique international afin de statuer sur la valeur de nos données avec l'aide du monde académique. » Et inscrire dans la Constitution cet article-là. Selon toi, c'est là où on pourrait, on pourrait peser sur les leviers. C'est d'avoir une Constitution, en tout cas pour la Suisse, et au-delà de cela, pour l'ensemble des pays, qui fixe ces droits-là de manière indubitable.
Bien. Pour le moment, quelle est la valeur d'une donnée qui vous appartienne à vous et à moi? On ne sait pas.
Ouais.
C'est une entreprise qui va définir ça, ou c'est un marché qui va définir ça. Mais surtout, où sont ces données? Qui sont vous, donc qui théoriquement vous appartiennent, qui ne vous appartiennent même pas parce que c'est les entreprises qui décident que ça leur appartient parce que c'est sur leur serveur. Bah, la question elle se pose, donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec ça? Donc on n'a aucun moyen de recours. Si on inscrit dans la Constitution que ça devient une prolongation de nous-mêmes, c'est-à-dire quand on parle d'une dimension des droits humains dans le numérique, c'est qu'on part du principe que l'identité numérique est une extension de nous-mêmes dans notre identité physique. Et c'est ça qui est intéressant, parce que dès ce moment-là, on aurait vraiment un outil concret où nous, on puisse dire, ok, maintenant, où sont mes données? Où je suis? Et vous ne pouvez rien faire avec moi, parce que vous n'aurez pas le droit de faire ce que vous faites avec moi. Et c'est ça que le terme va changer. Ce ne sont plus mes données, c'est moi. Vous pouvez pas faire n'importe quoi avec moi.
C'est partie prenante finalement de la personne. Pourrait-on parler dès lors d'une citoyenneté numérique qu'il resterait à définir et à promouvoir?
Mais elle existe déjà, cette citoyenneté numérique. Du moment qu'on a un numéro d'AVS, c'est bon, elle existe déjà. Dès la naissance, la citoyenneté numérique existe. D'ailleurs, cette citoyenneté numérique, c'est quelque part un non-sens, c'est la citoyenneté tout court.
Ouais.
C'est juste nous. Voilà, c'est.
Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu le dis, d'une certaine manière, elle existe d'ores et déjà. Peut-être n'est-elle pas reconnue ou peut-être n'est-elle pas appliquée, mise en fonction de la manière démocratique dont on pourrait souhaiter.
Elle n'est pas philosophique. Pour le moment, elle est commerciale et marketing.
Ouais, ouais.
Et on s'arrête justement à cette définition-là. C'est vous. Mais il n'y a pas une dimension respectueuse d'un contrat social. Parce que mon identité dans mon contrat social avec l'État, je ne sais pas si les gens connaissent réellement ce que c'est que le contrat social, mais si j'explique en deux mots, c'est l'État a une obligation envers nous, comme nous on a une obligation envers l'État. Et l'État nous doit protection. Elle doit nous maintenir en vie, elle doit nous protéger. Et elle aurait l'obligation de le faire si l'identité numérique serait revenue au niveau constitutionnel. Et là, on entre dans même au niveau de la prison, ou même au niveau du jugement, parce que le problème, il est là pour le moment. Je vais donner un exemple un peu plus concret. Il y a des données qui circulent sur nous qui sont publiques. par exemple, si j'ai un jugement, ou si je suis propriétaire d'une maison, si j'ai des infractions. Il existe plein de données qui nous définissent. Elles sont publiques, et il existe des sociétés qui utilisent les données publiques pour faire du profiling, pour faire des bilans de santé financière, et là, ils ont le droit de le faire, parce qu'il n'y a aucun statut qui définit que notre identité numérique, on ne peut pas faire commerce avec. Donc notre identité, on ne peut pas faire commerce avec. Là, on entre vraiment dans le vif du sujet, dans une application concrète d'un problème.
Ouais.
Et aujourd'hui, on ne peut pas se défendre, on ne sait même pas. Si je vous dis maintenant, vous, il y a un profil sur votre santé financière, vous allez me dire, ah ouais ? Vous allez dire, ah oui, je sais, j'ai déjà entendu parler. Mais si je vous dis qu'il y a 53 entreprises en Suisse qui font ce service-là, est-ce que vous allez demander à ces 53 entreprises de vous livrer les données qui vous appartiennent ?
Ouais, il s'agirait de reprendre le contrôle sur des choses qui émanent finalement de sa propre personne.
Voilà, et surtout ça pose un problème de société. C'est-à-dire quelles sont les pratiques que la société encourage et quelle société nous voulons et quelles pratiques nous voulons dans notre société. Si par exemple je suis dans une société commerciale, ça pose pas de problème, c'est individualiste, c'est toi qui es responsable, tu te débrouilles, va chercher tes données toi-même, tu peux même payer, tu peux même les vendre. Et là, on est dans un problème. On ne devrait pas pouvoir vendre ces données. Parce qu'on ne peut pas vendre ses organes.
Ouais.
Ce serait strictement la même chose. On n'a pas le droit de vendre ses organes. Et puis, de toute façon, c'est un non-sens même de se dire « moi, je vais vendre un rein pour me faire de l'argent ». Alors, pour certains, ça serait pratique. Et puis, pour d'autres, on dirait que ça rentre dans un problème éthique. Et ça rentre après dans des débats qui vont très loin. C'est-à-dire on peut faire commerce et puis choper tout le monde au passage et demander un rein à tout le monde. Ce qui a déjà été fantasmé d'ailleurs.
Alors effectivement, on met un pied dans l'analogie médicale et là on sait que le big data est extrêmement important, qu'il est par ailleurs parfois encouragé par des professeurs. On a fait quelques interviews avec des personnes qui se sont exprimées également dans le magazine Pulsion de DHUG, où on disait en épidémiologie ça peut être intéressant pour nous d'avoir toutes ces données là. On n'a pas spécialement envie de savoir si les gens sont d'accord ou pas, on a juste envie d'avoir la donnée brute et puis tant pis. Sauf que effectivement on ne sait pas ce qui en est, où vont intéresser ces données-là, et ça peut éventuellement poser des problèmes par la suite. Il y a des implications dont on n'a pas idée et qui pourraient surgir à tout moment.
Je peux donner un autre exemple simple. Il y a une ONG que je connais qui est venue me chercher pour des conseils, qui a sur ses serveurs la géolocalisation de masse via des cartes SIM dans un pays, je crois que c'est le Congo, le Zaïre, et leur but était d'étudier les mouvements de foule en cas de catastrophe, pour savoir où vont les gens et comment intervenir. Et il me disait, écoute, là j'ai la CIA qui est venue pour que je leur donne accès à mon serveur. Il disait, j'ai un agent qui est venu et qui m'a dit, c'est problématique.
Ouais.
Et ça pose aussi, après si je reviens dans l'étymologie médicale, l'intention est peut-être bonne, mais d'autres personnes peuvent utiliser ces données pour des mauvaises intentions. Finalement, pour nuire quelqu'un, il ne faut pas aller chercher quelqu'un, il faut chercher là où il a laissé des traces. Et le problème, c'est que là où il a laissé des traces, l'utilisateur lui-même ne sait pas. Si maintenant en étymologie on dit c'est une personne qui a le sida et qu'on arrive à recouper ça et qu'une autre entreprise arrive justement à avoir accès à ces données, soit par achat, soit par hacking, et qu'il puisse utiliser ça pour nuire à l'individu, c'est problématique. Maintenant, si c'est son identité propre, il aura des points légaux pour savoir qui fait quoi avec ces données.
Bien sûr. Une des limites n'est-elle pas de rechercher une législation nationale dans un monde global ? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il faut recourir ou tenter de recourir aux instances internationales telles que l'ONU, ou alors en avoir une à proprement parler dédiée à cela ? Après s'apercevoir des fois de l'incurie ou en tout cas de la difficulté des limites des instances nationales. On voit en France la Commission éthique et liberté, informatique et liberté, qui sont assez rapidement dépassées d'une certaine manière et qui, au bout du compte, ne traitent pas le problème à la base et au fond.
Alors pour la France, c'est compliqué parce qu'ils ont de très très bonnes initiatives et ils ont de très bons organes qui font du très bon boulot. Et à côté de ça, effectivement, ils ont une caste politique qui est assez problématique et qui, elle, est plutôt centrée commerciale. Commerciale, on va le dire comme ça. Après, on vit une époque... Alors, on est dans l'argument de conviction. C'est moi, avec mes convictions, je veux dire, on est dans une époque où, effectivement, on marche sur les droits humains. on ne s'est même pas respecté, où on essaye de prendre des libertés avec les droits humains. Mais on va y revenir de toute façon, c'est cyclique. Et à un moment donné, le monde académique et d'autres personnes vont se positionner là-dessus et vont pouvoir remettre sur le tapis des projets qui sont déjà existants depuis quelques années. Si la Suisse devient un exemple avec cette initiative, avec cette phrase que vous avez citée, arrive à venir en avant avec cette initiative, ça va faire parler au niveau international. On va se dire, ah bah la Suisse, elle propose un niveau éthique, c'est comme beaucoup d'initiatives, la Suisse rayonne aussi de par son système politique. Elle rayonne assez fortement même, et on va avoir justement des débats qui vont s'incarner au niveau politique et social, et ça va faire avancer les choses. Et surtout, le peuple va bouger, le citoyen va changer ses opinions, parce que ça passe aussi par l'information, où chacun va pouvoir s'informer, se dire « Ah tiens, bah, il y a ces questions-là, il va y avoir des entrepreneurs ou des indépendants, des militants qui vont effectivement se positionner aussi, et ça va faire des petits, comme on dit.
Mmh, » Absolument. Certains partis politiques, à un moment donné, j'ai l'impression, ont tenté de saisir ces données-là et d'en faire quelque chose. Je pense aux partis pirates à l'époque. Est-ce que nous n'avons pas tout de même une certaine forme de déni ? Nous sommes ici en Suisse à l'aune des élections fédérales en octobre 2020. Non, en octobre 2019, pardon, qu'est-ce que je dis ? Là, tout soudain. J'ai pas l'impression d'avoir vu dans un quelconque programme, d'une quelconque formation, cet argument-là surgir. As-tu vu quelque chose ? As-tu vu passer quelque chose ?
Alors, pour le moment, j'ai envie de dire que ce sont des initiatives individuelles, c'est-à-dire on a des politiciens qui sont intéressés à la question. On a des politiciens socialistes, des Verts ou des Verts libéraux, même le PLR. Le PLR, par exemple, la blockchain, ils s'y intéressent. Ils disent, oui. Ah, tiens, on peut faire de l'argent avec. Il y a peut-être quelque chose où on peut en tirer et prendre les devants, quoi. Mais aussi, notamment, sur le traitement des données. Les campagnes, ils connaissent très bien le sujet du numérique. Mais en même temps, on attend de voir ce que l'Europe fait. En Suisse, on est assez ambivalent là-dessus. On va dire, bon, on regarde ce que l'Europe fait et après on copie. Ou alors après on améliore, on propose d'autres, à notre sauce, on reprend les arguments et on les remet à notre sauce, plus locale. Et en même temps, on a le citoyen suisse qui va proposer des choses et qui, lui, va aussi influencer. Les discussions se font surtout. Comment on dit quand on a une discussion qui est un peu. Qui n'est pas publique.
Ah, une discussion...
Informelle.
Informelle, oui,
voilà,
d'accord.
Une discussion informelle où on se retrouve à discuter de ça, on nous pose des questions, et puis on y répond, et eux-mêmes, après, ça fait germer des idées, et puis après, il y a la réalité politique qui fait que c'est pas forcément à l'agenda. Mais je sais que les Verts sont assez intéressés par ça, et certains du parti, les jeunes socialistes, sont aussi intéressés par la question. En tout cas, ils poussent assez les vieux gravataires dans la main.
Ok, très bien, très bien. Revenons-en à la scène internationale. Hein. Ouais. Récemment, des scandales ont quand même surgi qui pourraient nous alerter pour de vrai et vraiment de manière extrêmement prégnante. Je pense aux élections américaines où on a parlé d'influence russe, de hacking. Je pense aux données à Facebook, hein, dont on a vu les usages limites de leurs données. Comment se fait-il que dans seul humain, on ne se lève pas tous pour dire « Non mais on voit, les dangers sont évidents, il faut absolument et immédiatement qu'on change la donne ».
Alors, je suis pas sûr d'avoir compris, mais est-ce qu'une personne peut faire changer les choses ? C'est ça la...
Pourquoi est-ce qu'il y a une forme d'inertie et que, de manière beaucoup plus radicale et rapide, une multitude de gens ne se lèvent pas d'un seul homme face à cette incurie-là dont on voit, via justement ces scandales internationaux comme ce qui s'est passé, enfin, concernant les élections américaines ou les données de Facebook, on voit bien que ça dysfonctionne.
Alors déjà, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de loi sur le sujet. Donc je crois que c'était un journaliste qui allait demander à Facebook ses données. Et aux États-Unis, ça lui a été refusé parce qu'il n'y a pas d'outils. Et ça montre bien que la loi est importante puisqu'il a dû le faire en Angleterre avec les serveurs de Facebook hébergés en Irlande. Il y a une loi anglaise qui dit qu'on a le droit de demander ses données. Et c'est là qu'il a utilisé cet outil-là, cet outil juridique pour avoir ses données, pour se rendre compte qu'effectivement, il y avait du profiling qui était fait, du mensonge et de la dérive argumentative assez intéressante. Et ça fait scandale parce qu'on touche au nerf de la liberté qui est le choix politique. On n'oblige pas, et là, il y a encore les traumatismes. Après, il ne faut pas oublier que le peuple vit de par ses traumatismes. Et quand on lui dit « ta liberté d'opinion, tu es en train de la perdre », ça émeut tout le monde. Après, c'est clair que si on lui dit qu'il y a un problème médical ou qu'on va dans le sujet technique en disant oui, mais là, ce serait bien par rapport au génome d'aller chercher les données internationales et d'utiliser les ordinateurs de tout le monde pour faire des calculs. Je vous ai déjà tous perdu. Donc là, ça touche pas. Par contre, quand on touche au sentiment ou au cœur même d'une problématique, ben, ça fait lever les foules. Mais c'était la même chose avec Snowden. Hein. Quand on a touché à la liberté d'expression, la liberté de mouvement, ben, ça fait grincer des dents. Au niveau politique, ça fait grincer des dents aussi. Mais après, vous avez, par exemple, Merkel qui s'est fait avoir avec les écoutes. On a dit, bon, ben voilà, on nous écoute, nous, on écoute tout le monde.
Mmh. Eh oui. www.pensepublique.wordpress.com, pensée publique au pluriel. Ça, c'est le site internet que l'on recommande à toutes et à tous qui souhaitaient vous outiller, vous armer face aux utilisations du numérique. L'article, c'est l'utilisation du numérique, miroir d'une société. On arrive doucement au terme de cet entretien. D'ailleurs, si des personnes souhaitent intervenir, bienvenue. Qu'en est-il selon toi des pratiques quotidiennes? De quelle manière est-ce que, d'ores et déjà, et en attendant que l'on fasse mieux, certaines pratiques quotidiennes pourraient permettre de se protéger, de se prémunir de cette collecte de données involontaires ou en tout cas non souhaitées?
Alors je peux répondre de manière sémantique en disant ça, se cultiver et s'informer, c'est-à-dire toujours s'intéresser à des sujets qui ne sont pas forcément évidents, mais toujours s'intéresser. Après, les sujets pratiques, c'est réfléchir à qu'est-ce qu'on fait avec son téléphone. Est-ce qu'on en a forcément tout le temps besoin? Qu'est-ce qu'on installe? C'est difficile à répondre comme question parce qu'on parle d'hygiène. D'hygiène numérique. Et il y a 2-3 livres d'ailleurs qui sont très bien faits qui concernent la santé numérique ou l'hygiène numérique. On les trouve un peu partout. Ça pose des questions notamment sur comment je surfe sur Internet. Pourquoi je surfe de telle manière? Qu'est-ce qui m'amène en fait à aller sur tel site et pas d'autre? Est-ce que je suis vraiment libre quand je vais sur un site web ou pas? Où vont mes données sur ce site web? Quand on prend un navigateur, ne serait-ce que ça, un navigateur, qu'est-ce que c'est? Il en existe combien? Lequel moi j'ai? Pourquoi j'utilise celui-là et pas un autre? La même chose que les chaussures en fait. C'est quelles chaussures j'achète? Pourquoi? Est-ce que je regarde le prix? Est-ce que je regarde la qualité? Est-ce que je regarde la marque? Enfin, c'est toujours se poser les bonnes questions et prendre un peu de recul sur ce qu'on fait. Quand on va sur Facebook, est-ce qu'on peut cloisonner Facebook? Par exemple, Mozilla le fait, Mozilla Firefox le fait automatiquement. Quand vous arrivez sur Facebook, il crée un container. C'est comme si Facebook était hermétique et ne pouvait pas accéder aux autres onglets et communiquer sans le vouloir.
Non, absolument. Alors, ben voilà, ça nous permet de dire qu'on va doucement conclure comme ça. Tu viens de citer Mozilla, Firefox. Y aurait-il, rapidement en quelques mots, des outils que tu encouragerais d'utiliser? Je pense à DuckDuckGo comme moteur de recherche, je pense à Tor éventuellement, ou un lieu où certains de ces outils soient relativement faciles d'usage, soient recensés pour que les personnes, justement, à titre individuel, eh bien, déjà se protègent.
Alors, il existe Prism.org qui recense déjà tous ces outils. Prism.org, en fait, c'est ce qu'on appelle l'alternative à tout ce qui existe de commercial. Par exemple, si je vous sors un traitement de texte, vous allez me dire Word. Ah ouais, moi j'utilise Word. Non, j'utilise un traitement de texte. Page, c'est la version Mac, et puis il y a LibreOffice, qui est encore une autre version, c'est une alternative. Quelle alternative je vais utiliser? Surtout, qui travaille derrière? Est-ce que le code est ouvert ou pas? Est-ce que des gens ont vérifié le code? Par exemple, il faut s'intéresser à l'open source. L'open source fait de très bonnes choses, qui est d'ailleurs utilisé aussi par les privés. Android, ça a été créé, à la base, c'est de l'open source. Et ensuite, ils ont mis leur couche. D'ailleurs, quand vous prenez votre téléphone, on va citer une marque, Swisscom, vous avez la couche Android de base. Après, vous avez Google qui rajoute sa couche à elle. Après, vous avez, si par exemple j'ai un Samsung, vous avez Samsung qui rajoute sa couche à elle. Puis après, vous êtes chez Swisscom et il y a Swisscom qui rajoute sa couche à elle. Donc votre Android, finalement, il est un peu énorme. C'est ces questions qu'il faut se poser, s'intéresser à qu'est-ce que j'utilise et pourquoi. C'est pourquoi je cuisine, quel aliment je mange, quel aliment je vais cuisiner. Mm-hmm. C'est exactement la même chose, s'intéresser à ce qu'on consomme.
Prism.org, on pourrait acheter Frama.org également, qui est une belle ressource également. Et...
Oui, alors je voulais dire quelque chose par rapport à ces outils, en fait, parce que moi je ne suis pas aussi... calé sur le domaine que Sébastien, mais personnellement, en fait, J'ai découvert qu'en fait c'était assez facile de, à la fois de se documenter sur sa manière d'utiliser Internet et sur sa manière d'utiliser son ordinateur en fait. Je trouve que c'est, il n'y a pas besoin d'être calé dans le numérique ou d'avoir énormément de connaissances. Il suffit finalement, même on tape dans un moteur de recherche, on trouve facilement ce genre de choses.
Et c'est important de dire ça. Selon toi, c'est plus facile qu'on ne le pense.
Oui, c'est beaucoup.
En tout cas, se protéger.
Oui, je trouve que c'est beaucoup plus facile parce que, comme le disait Sébastien, en fait, c'est un ensemble de petits gestes, de petites choses. Quand on achète un téléphone, ben voilà, on voit toutes ces applications qui sont déjà installées, puis de se dire, mais est-ce que j'ai besoin de toutes ces applications ? Est-ce que et si on n'en a pas besoin, bah, de les désinstaller. Enfin, moi, je n'ai pas du tout de compétences dans le sens où je n'ai pas fait de formation dans le domaine, à l'inverse de Sébastien. Et je suis sur Linux depuis quelques années et je trouve que c'est extrêmement facile d'accès parce qu'il y a tout ce côté un peu marketing, toilette. Alors, c'est joli, ça donne envie quand on est sur... sur Windows, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin qui ne nous servent à rien et qu'on se met à utiliser au final sans savoir à quoi ça nous est utile et qu'est-ce qui se passe derrière ce logiciel ou cette application en fait.
Très bien, eh ben, ça c'est un chouette témoignage qui en dit long sur tout ce qu'on vient de réfléchir. Sébastien, pour en terminer, l'objet du prochain article, ce sera, tu vas rester un petit peu là-dedans, tu vas t'intéresser, c'est un petit peu ton domaine d'expertise, mais pas que, on sait que tu as quand même beaucoup de casquettes. C'est un sujet qui pour toi est central et qui va t'occuper encore un moment. Ça va rester attentif au site internet dont je vais redonner l'adresse, hein, www.pensepublique.wordpress.com, pensée publique au pluriel. Voilà, il va y avoir d'autres choses que tu vas énoncer au travers du site.
Bah, il y aura tout ce qui est social. C'est-à-dire le numérique et le social, le numérique et la politique.
www.libradio.org www.libradio.org www.libradio.org